avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles », et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. On va s'arrêter là. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le mot pour nouveau, c'est pas nouveau dans le sens de plus récent, mais c'est nouveau dans le sens de qualitativement, quelque chose d'amélioré, comme un peu dans la publicité, il y a toujours un produit nouveau qui est généralement sorti après, mais l'accent, là, c'est une autre qualité. Et la question qui se pose pour les commentateurs et pour nous, c'est de savoir est-ce que c'est une recréation de la Terre ou bien est-ce que c'est une création totale de la Terre ? Alors, il y a bien sûr des arguments dans les deux sens. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui disent, par exemple, dans le psaume 102, que les cieux, la terre et les cieux périront, ils s'useront comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Dans Hébreu 1, 10, terres et cieux périront, vieilliront comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés comme un vêtement. Dans le psaume 104, il est dit que la terre est inébranlable parce que Dieu l'a établie sur ses fondements. Dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 21, il est question du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé. Alors, utilisant ces versets, certains disent que c'est en fait simplement on remplace les vieux vêtements par des vêtements nouveaux, mais c'est toujours la même terre qui est recréée. Et puis d'autres disent que ce sera une création totale. Par exemple, dans Luc et Matthieu, il est dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dans l'Apocalypse 21, dans le premier verset, il dit que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Dans 2 Pierre 3, 7 et 13, un grand passage qui parle de la fin des temps, il dit « Les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se fondront. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Ce qui ferait penser à une destruction complète de ce qui existe maintenant. Et puis Pierre dit après ça, « Nous attendons donc cela, selon la promesse de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera », qui est une citation d'Ésaïe, du prophète Ésaïe 65, où il est dit « Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre », Ésaïe 65, 17. Et en hébreu, il y a, pour voir quel est le terme employé par Ésaïe, il y a plusieurs mots pour dire créer quelque chose. Il y a le mot qui se prononce asa, qui veut dire créer à partir d'éléments existants. Comme aujourd'hui, on dit que l'homme est créatif, que le chimiste Lavoisier disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout ce que l'homme sait faire, c'est prendre des éléments qui existent déjà, qui ont déjà été créés par Dieu, pour les agencer de façon différente, de façon surprenante, de façon ingénieuse. Mais la création de l'homme, c'est seulement ce genre de création, de façonner des éléments existants. Il y a un autre mot qui se dit yatsar en hébreu, qui veut dire former, façonner, mouler. Et là aussi, c'est à partir d'éléments, un peu comme un potier va façonner un pot. Mais le mot qui est utilisé ici, c'est le mot bara, comme dans la Genèse, quand il est dit que Dieu créa les cieux et la terre à partir de rien. Et c'est le mot que Ésaïe utilise, « Je crée de nouveaux cieux et de nouvelles terres à partir de rien. » Alors, c'est pas dramatique, quel que soit le sens. Ça va être un nouvel endroit. Il y a des fois, quand on retape, on remodèle, on réagence une maison, on ne reconnaît pas. Une chose qui est, donc, dans l'un ou l'autre des cas, ce sera un endroit merveilleux. Vous vous souvenez que Jésus avait dit qu'il allait préparer une maison pour nous. Il est dit que la mer n'était plus, il n'y a plus de mer.
Ça, c'est triste.
Voilà, je suis d'accord avec toi. Pour beaucoup de contemporains, la mer, c'est synonyme de vacances, de soleil, de surf, de pêche, de voile, de windsurfing, de tout un tas de choses plaisantes et agréables. Mais pour les Juifs, la mer, c'était un endroit qui faisait peur. Ils n'avaient pas de marine. Lorsqu'ils avaient besoin de faire transporter des choses, ils allaient voir leurs amis ou leurs ennemis, les Phéniciens qui habitaient Tyr. Ils faisaient amener les ressources pour construire le temple de Salomon. Quand David faisait appel, il allait chercher les voisins, les peuples voisins, parce que pour les Juifs, la mer, c'était un endroit instable, et c'est vrai que la mer peut être très instable. C'était un endroit qui était associé avec les païens. Dans Ésaïe 57, 20, il est question... Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Il y a toujours cette peur de la mer. C'est pour ça, lorsque Jésus avait demandé à ses disciples d'aller traverser la mer de Galilée, pour eux c'était une mer parce que c'était une grande étendue d'eau, ils n'étaient pas rassurés. Et lorsque la tempête s'est levée, ils étaient vraiment paniqués. Lorsqu'ils ont vu Jésus marcher vers eux, encore plus, parce que pour eux c'était le domaine des démons. C'était un endroit vraiment qu'ils n'aimaient pas et qui leur faisait peur. Si vous vous souvenez, l'Antéchrist, c'est la bête qui est sortie d'où ? De la mer, M-E-R. Donc c'était pas quelque chose de très positif. Et moi, j'ai aussi la réaction de Lindsay. C'est bien dommage qu'il n'y ait plus de mer.
C'est juste le Méditerranée.
Voilà, ils vont garder le Pacifique avec les... C'est possible.
La Méditerranée est mauvaise. Il n'y a pas de vague.
Voilà.
Oui, c'est pas une bonne mer, on ne peut pas ça.
Yes, sir.
Donc, si c'est vrai qu'il n'y a vraiment plus de mer, on sait que la surface du globe est remplie à combien de pourcents ? 75%, c'est de l'eau. Donc, ce serait un bouleversement assez complet. Et là, il voit descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Alors, on a parlé de Jérusalem dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de références à Jérusalem pendant le millénium, pendant le règne de Jésus sur la terre. Mais là, c'est une nouvelle Jérusalem, c'est pas la même Jérusalem. pour revenir à cette idée que peut-être toute la terre pourrait être dissoute, comme le disait Pierre, on sait que les savants aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi la matière n'explose pas. Vous savez, si vous avez joué avec des aimants, que les pôles positifs se repoussent, les pôles négatifs se repoussent. Et dans l'électricité, il y a des éléments dans les protons qui sont tous chargés de charge positive qui devraient se repousser les uns les autres. Et pourtant, le proton compose le noyau de tous les atomes qui composent l'univers. Et la Bible nous explique, en fait, c'est une... Alors, les savants essayent de trouver des explications avec des particules qu'ils n'ont pas encore vues, qui seraient là pour neutraliser, assurer la... comme une espèce de colle. Mais dans Colossiens, sans rapport avec la colle, mais Colossiens 1:17 explique que celui qui retient toute la création comme ça, c'est Jésus. Il est dit que dans Colossiens 1:17, que lui, parlant de Jésus, est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui ou sont retenues par lui. C'est lui qui fait la cohésion du monde matériel que l'on voit. Sachant que ce monde matériel, ce n'est qu'une apparence, dans le sens où ce qu'on voit comme quelque chose de solide, c'est du vide qui tourne très vite sur lui-même. C'est des champs électriques qui font qu'on ne peut pas passer la main à travers une plaque de fer. Mais sinon, au niveau de la densité des éléments physiques, les quelques électrons, noyaux qui composent vraiment la matière, s'il n'y avait pas les charges électriques, ça serait du vide dans du vide. Et c'est intéressant, encore une fois, la science, avec les découvertes les plus modernes, rejoint la Bible. Avant, les gens disaient c'est la bêtise, c'est complètement dingue. Et plus on étudie, plus Dieu nous permet de comprendre un peu le monde, et plus ce qu'on trouve dans la Bible est logique ou possible ou pas si complètement farfelu que certains pouvaient le penser au début des progrès de la science au 18e, 19e siècle, qui pensaient qu'ils avaient dépassé la Bible et que maintenant il fallait passer à des choses sérieuses. Et avec ce que nous dit Pierre, tout va brûler. Votre planche à voile, votre télé, le bâtiment de l'église, l'ordinateur, la console, toutes les choses matérielles auxquelles vous pouvez être attaché et donner beaucoup de valeur, tout ça, ça va disparaître. Ça devrait nous donner vraiment un sentiment des vraies priorités. Les seules choses qui ne vont pas disparaître, c'est notre relation avec Dieu et les relations qu'on a les uns avec les autres. On arrive à la fin de la Bible, hein, et ce qui est remarquable, c'est de voir le parallèle ou le rapprochement entre le début de la Genèse, entre le début de la Bible avec la Genèse et la fin de la Genèse. Au début de la premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Révélation 21:1, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il appelle les ténèbres nuit, c'est la Genèse 1:5. Ici 21:25, on le verra plus tard, il n'y aura plus de nuit. Dieu a fait deux grands astres, le soleil et la lune. Là, on va voir qu'il n'aura plus besoin ni du soleil ni de la lune. Il avait promis à Adam et Ève que le jour où ils mangeraient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient. Là, on va voir qu'il n'y aura plus de deuil, la mort ne sera plus. Genèse 3, Satan apparaît comme celui qui trompe, le trompeur. Ici, on a vu que Satan disparaissait pour toujours. On nous parlait d'un jardin où le mal était entré, dans la Genèse 3. Ici, on va nous parler d'une ville pure, où rien, le mal n'est jamais entré. La communion de l'homme était interrompue à cause du péché de l'homme et de la femme. Là, 21:3, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. La communion de Dieu et de l'homme sera restaurée pour toujours. le serpent avait gagné au début, maintenant c'est l'agneau qui va gagner. Vous vous souvenez qu'il avait dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. Vous avez entendu qu'Éloïse est née. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Le sol devait être maudit à cause de l'homme. On verra dans le chapitre 22 qu'il n'y aura plus de malédiction. Donc on voit toute une transformation radicale de l'humanité depuis la chute jusqu'à la restauration ou la recréation d'un univers parfait. Il est question de cette descente du ciel d'auprès de Dieu. Lorsqu'il est question du ciel, pour les Juifs, il y avait trois espèces de ciel. Il y avait le ciel bleu, l'atmosphère terrestre qu'on voit. Même s'ils n'étaient pas très avancés scientifiquement, ils savaient qu'il y avait, au-delà de l'atmosphère et des nuages et du ciel bleu, qu'il y avait des étoiles. Ça, ils appelaient ça le deuxième ciel. Et le troisième ciel, qui lui ne va pas être créé, qui reste tel quel, c'est l'endroit où habite Dieu. Et c'est de là que descend la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ça, c'est un passage que malheureusement j'ai eu l'occasion d'utiliser pour les funérailles de ma maman, pour donner l'espoir à ceux qui sont dans le chagrin qu'il y a un endroit, il y a une possibilité d'être dans un monde près de Dieu, avec Dieu, où on sera complètement réconforté. En Corinthiens 15, mort, où est ta victoire? En Christ, la mort a été vaincue. Le tabernacle de Dieu, verset 3, c'est lorsque Jean dit que la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, c'est le même mot, c'est le mot de tabernacle. Le tabernacle, dans l'Ancien Testament, dont les plans avaient été donnés à Moïse par Dieu, c'était une image des choses à venir. Et là, on arrive justement à cette chose qui sera venue à ce moment-là, c'est la demeure de Dieu qui est avec les hommes. Encore une fois, devant un texte pareil, on se sent petit pour le commenter, pour en parler, parce que ça nous dépasse tellement de voir un monde où il n'y aurait plus de péché. Et notamment le fait que la ville est présentée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, une ville sainte. Pour la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous probablement, si on avait le choix entre vivre en banlieue parisienne ou vivre à la campagne dans une petite maison avec du terrain et de la verdure, on aspire à la paix, à la tranquillité d'un coin où on se retrouve tout seul. Mais la communion avec Dieu, c'est aussi la communion avec les autres. Et l'idée de Dieu pour un endroit de félicité, c'est pas le coin où on est tout seul, où on voit pas ses voisins, on est bien tranquille. C'est au contraire un lieu, une ville, mais une ville sainte, où il n'y a pas de bas quartier, où il n'y a pas de corruption, où il n'y a pas de violence. Ça fait rêver. Mais c'est en même temps ce qui est proposé. Cette ville va être sainte, il n'y aura plus de péché. Dieu pourra nous consoler. Au verset 5, il est dit « Écris, ces paroles sont certaines et vraies. C'est tellement beau, tellement merveilleux, que la Bible nous dit, c'est pas du baratin. Parce qu'elle sait que nous qui vivons dans un monde corrompu, un monde affecté par le péché, on va avoir du mal à recevoir ces choses, à croire ces choses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça vous rappelle quoi, ça? Quand est-ce qu'on a parlé d'alpha et d'oméga? Et qui c'était au début de l'Apocalypse?
Jésus.
C'était Jésus. Il s'identifie donc à Dieu, le commencement et la fin. On verra aussi au chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il y a une identité entre Dieu le Père et Jésus. Il va donner de la source de l'eau de la vie gratuitement. Ça nous rappelle Ésaïe 55 qui dit: pourquoi vous prenez des choses, dépensez de l'argent pour acheter des choses qui ne durent pas? Vous qui avez soif, venez aux eaux. Et quelque part, on a tous déjà cette soif physique, mais on a cette soif spirituelle, d'absolu, de paix, de sainteté. Et il nous promet que l'héritage du vainqueur, ça va être de la source de la vie. Nous allons être rassasiés et ce sera gratuit. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Et puis, encore une fois, il contraste ça avec ceux qui ont été vaincus par le péché, ceux qui ne se sont pas affranchis du péché en venant à Christ. Et il dit que ceux-là, ils iront dans l'étang de feu, et ça, c'est la seconde mort. Ils seront morts physiquement, ils ont une mort spirituelle. Il y a certaines versions qui parlent plus exactement dans le chapitre 15, on y reviendra peut-être. Il est dit: dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors les chiens, ça veut dire que non seulement ça va être dur pour Lindsay, il n'y aura plus de mer pour faire du surf, il n'y aura plus de petits chiens. Non, c'est pas ce que dit le texte. Les chiens.
Les piscines avec les vagues.
Avec l'eau de la vie qui fera des vers. C'est pas les animaux domestiques dont il est question là, ce sont les homosexuels, ceux qui rejettent Dieu de façon violente. Et je dis cela parce que j'avais une collègue au travail, quand je travaillais à Seattle, que j'ai retrouvée sur un réseau social que je ne nommerai pas. Et j'essayais de témoigner auprès d'elle, et en fait elle n'était pas prête à accepter la parole de Dieu, parce qu'elle était une grande amoureuse, où elle avait la passion des animaux et des chiens en particulier, et le fait que la Bible dise que les chiens ne seraient pas au paradis, pour elle c'était fini. Alors je lui ai expliqué qu'en fait c'était pas le cas. Et à ma grande joie, sur le réseau social, j'ai vu qu'elle est maintenant chrétienne, qu'elle fréquente une église. Alors je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais les chiens, c'est pas Bandit et compagnie. Est-ce que vous avez des questions sur cette portion? Si vous avez jamais perdu quelqu'un, un être cher, C'est merveilleux de voir cette promesse qu'il n'y aura plus de larmes. Que la mort ne sera plus là, qu'il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur. Et encore une fois, c'est quelque chose que l'on a mal à imaginer. Parce que ça fait partie de notre condition humaine. Mais en fait, c'est le résultat du péché. Le péché est entré dans la race humaine. On parlait de science. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi on vieillit, ou ils trouvent des raisons en disant que les séquences d'ADN qui se reproduisent perdent de l'information, etc. Mais la vraie raison qui explique ça, c'est que par le péché, la mort est entrée dans la race humaine. Et de penser qu'on ne vieillira plus, qu'on n'aura plus de chagrin, ça devrait nous remplir d'une espérance formidable qu'on a envie de partager avec les autres, surtout quand on voit les autres souffrir et être exposés au deuil, à la douleur, ou à la maladie, au vieillissement. Et en même temps, on sait que Dieu a mis dans le cœur de l'homme le sentiment de l'éternité. C'est dit dans l'Ecclésiaste 3, 10 ou 3, 11, suivant les versions. Et c'est vrai que si vous avez été en présence d'un être cher qui était décédé, que vous avez peut-être vu sa dépouille, vous voyez et vous dites « non, c'est pas possible, il y a quelque chose qui n'est plus là ». C'est quelque chose, c'est vraiment la personne, le corps, pour autant qu'on y donne une importance probablement exagérée dans notre monde, mais ce qui compte, c'est la personnalité de l'homme ou de la femme. C'est son être, ne se réduit pas à un corps. Et on voit justement, maintenant, il y a des greffes assez spectaculaire, où on peut remplacer tout un système digestif par le système digestif d'une autre personne. On peut remplacer le visage d'une personne par le visage de quelqu'un. C'est, en général, le résultat n'est pas le plus beau. Mais est-ce que, parce qu'on a changé le visage, est-ce que la personne est toujours là ou est-ce que c'est plus la même? Mais Dieu nous met tous dans le cœur le sentiment de l'éternité. On veut tous, si on pouvait, à moins de situations terribles, on voudrait tous vivre encore. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui sont désespérés, qui peuvent vouloir la mort, mais Dieu a mis ce désir de vivre en nous, cette vitalité, ce désir de vivre, et ce désir de vivre pour toujours, il va être satisfait. Mais il y a deux options, encore une fois. Ça peut être une vie pour toujours avec Dieu. Ça peut être une vie séparée de Dieu pour toujours dans cet étang brûlant de feu et de soufre. Ça, c'est la seconde mort. Et ce n'est pas une mort qui nous anéantit. C'est une souffrance, comme on avait lu dans la fumée de monte jusqu'aux cieux. La fumée de leur tourmente monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà, c'est une promesse grandiose, fantastique, qui devrait nous... Et c'est la fin de l'histoire. Autant on peut souffrir, autant on peut avoir des vicissitudes, des difficultés dans l'existence, des chagrins, des coups du sort, autant cette assurance de pouvoir demeurer pour toujours, Dieu ne se cachera plus, on pourra le voir. Vous vous souvenez que l'homme ne pouvait pas voir Dieu et vivre. C'est pour ça que Moïse avait vu Dieu de dos. Jésus disait, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais il y avait cette incapacité de l'homme pécheur à voir Dieu complètement saint, sans être anéanti. On va peut-être s'arrêter là, on va s'arrêter là, et on va prendre un petit break. Apocalypse 21, 9. Puis, verset 9, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernière plaie, vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. Le muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau en est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Encore une fois, une description qu'on a du mal à visualiser. Toutes ces pierres précieuses, on essaye de... C'est pas toujours très facile de voir, à partir des termes hébreux, essayer de trouver les correspondances modernes. Mais ces couleurs ou ces pierres précieuses rappellent les pierres précieuses qui se trouvaient sur l'éphod du grand prêtre, qui avait des pierres précieuses qui représentaient chacune des 12 tribus d'Israël. Et on a une vague idée de savoir que l'améthyste c'était violet, la topaze c'est jaune, etc. Et il y a des diagrammes, il y a des livres qui parlent de ces pierres précieuses. Mais ce qui est plus remarquable, c'est la taille de cette ville sainte. Alors on a quand même des indications. Le carré, on a l'impression donc que c'était un carré, ou plus exactement... comme la hauteur en était égale, c'était un peu comme le tabernacle et le Saint des Saints qui était une forme cubique. Donc on pense qu'il y a probablement, si on veut, en étant très prudent, dire que c'est comme ça que ça se présente exactement. Mais le stade, c'était 185 mètres à peu près. Ça représentait la piste. Aujourd'hui, on fait un 400 mètres en faisant un tour de stade. À l'époque, c'était 185 mètres. Et donc, 12 000 stades, ça représente 2220 km. Donc, près de 2000 km. Et si on représente la base carrée de cette ville, ça serait une distance qui irait de Gibraltar à Belfast, à Varsovie et à Athènes. Donc quand on voit la ville qui descend, on dit ben, ça va être tout petit, on va être serré là-dedans. En fait, il y a beaucoup d'espace en surface, mais aussi en volume, parce que c'est la même hauteur. Alors, certains se sont amusés à calculer ça, et donc on arrive à 10 milliards de kilomètres cubes. Si 10 milliards de personnes ont été sauvées dans l'histoire de l'humanité, on aurait donc 1 kilomètre cube pour loger. Donc on ne va pas être à l'étroit, malheureusement, ça c'est bon signe. Mais voilà comment, d'après ces quelques descriptions, tout en restant prudent, de dire que c'est exactement ce genre de forme, mais comme le lieu saint, c'est probablement cette forme cubique, hein, la hauteur, la longueur, la largeur sont égales, avec cette grande arête de plus de 2000 km. Et c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de monde dans un tel vaisseau spatial. On peut être au centre d'un cube de 1 km d'arête. Donc on a.
On peut quoi ?
On peut être au centre d'un cube qui ferait 1 km de côté. Donc on peut jouer au volet, on peut danser, on peut faire de la musique très fort. Et tout ce qui est remarquable aussi, c'est ces fondements qui sont faits de pierres précieuses, de grande beauté. Et là aussi, il faut voir que c'est. C'est pas seulement une petite muraille, c'est sur des distances de près de 4 fois 2000, presque 10 000 kilomètres, des pierres précieuses qui sont superposées pour faire le fondement. Vous savez que les perles sont créées par les huîtres parce qu'elles n'ont pas de bras. Si vous avez un caillou dans votre chaussure, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites votre chaussure, vous secouez votre chaussure pour enlever le petit caillou. Elles ont une autre façon, elles enrobent le caillou avec de la nacre par couches successives. Et donc pour avoir des perles de latte qui sont des grandes portes, on imagine que ça doit être une sacrée grande huître. C'est aussi le fruit de. Certains voient là le fait que, comme Jésus peut nous revêtir de sa justice, ces perles rappellent ce phénomène qu'on est, vêtu par sa justice, on a besoin d'être couvert de la beauté, de la pureté du Seigneur. Une chose qui est caractéristique, c'est la lumière, la transparence qui existe dans cette ville. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est une ville sainte, il n'y a rien à cacher. On utilise même dans la vie, dans les municipalités, on utilise la lumière pour faire diminuer le crime. S'il y a un endroit où il se passe des trafics, etc., on met des gros projecteurs, les gens vont essayer de se cacher. On met même de la lumière très désagréable pour empêcher que les gens restent là, comme cette lumière bleue qui se trouve sur le pont de la SNCF de Gambetta. Une des raisons pour cette lumière bleue aussi, on m'a dit en Suède, ça se trouve beaucoup, c'est pour éviter que les gens qui se piquent les veines ne trouvent plus leurs veines avec la lumière bleue. Mais tout cet aspect de choses que l'on cache, de trafic, de malhonnêteté, de corruption, ça va être complètement éliminé. Il n'y a plus besoin de lumière parce que la gloire de Dieu l'éclaire, l'agneau et son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire. Il n'y aura plus de nuit pour ceux qui ont des problèmes pour dormir. Ça va être Dieu vous est en train de vous préparer. Il n'y aura plus de rien qui soit souillé, rien de souillé, personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, mais seulement ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Euh, l'éclat de cette ville. Quand je vois cette description, je pense un peu à ce qu'on voit maintenant dans les films de science-fiction. On voit un gros vaisseau spatial avec des tas d'étages et de fusées qui rentrent, qui sortent. Et ça serait vraiment le cas avec à 2200 km un vaisseau spatial qui va venir et qui dans lequel on pourra vivre pour l'éternité. Alors, peut-être vous vous dites que c'est bien beau tout ça, mais on va s'en kikiner. Moi, quand les premières fois que j'ai lu ça en voyant que c'était peut-être ce qui nous attendait, je disais, mais en fait, moi, donnez-moi un beau lac de montagne avec des trucs qui sautent. Mais une chose est sûre, c'est que ce sera au-delà de tout ce qu'on pourra attendre, espérer. Il n'y aura pas d'église, il n'y aura pas de temple parce que le Seigneur, tout Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. On verra tout ce qui se passera, on n'aura pas de honte, les portes ne seront point fermées le jour, là, il n'y aura pas de nuit. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé en... lisant cela? Alors encore une fois, tout ça, ça fait référence à des passages de toute la Bible. Le chiffre 12, c'est souvent le nombre utilisé pour l'administration divine. 12 apôtres, 12 tribus. 12 au carré, c'est 144. Où est-ce qu'on voit 144, j'avais noté quelque part. Il y a 12 portes, il y a 12 anges, il y a des 12 tribus, des fondements, des noms, des apôtres, 12 000 stades. Donc on voit l'omniprésence du nombre 12, qui est le nombre donc du gouvernement. Et encore une fois, pour Dieu, la ville, c'est un endroit, c'est une cité parfaite où il y a une communauté parfaite. Et c'est vrai que nous, on a toujours cette idée, vivement, si on peut aller se retirer à la campagne, au moins sur les collines, avoir un peu plus de distance vis-à-vis de la foule. Mais là, on sera la foule des rachetés, sans péché. L'or est si pur qu'il est transparent. Verset 18. La muraille est construite en jaspe, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les rues sont pavées d'or, on a vu ça ailleurs. Alors on peut penser que ça veut dire que on pourra, comme aujourd'hui, il y a des trafics, par exemple, dans les villes américaines, des plaques. D'égout, parce que à Chicago, c'est très dangereux, ils volent les plaques d'égout parce que le cours du fer a augmenté beaucoup dans les 15-20 dernières années. Là, il n'y aura pas de trafic, on n'enlèvera pas les routes en or, ça voudra simplement dire que l'or sera devenu une chose tellement commune qu'on pourra remplacer le bitume par de l'or. La place de la ville était d'or pur. Donc verset 18 et puis verset 21, cette idée que l'or est si pur qu'il est, il est comme du verre transparent. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. C'est pas exactement clair où seront les nations. Je pense que ce sont les nations qui ont été sauvées. Dieu va racheter d'entre toutes les nations. Quelle sera la gloire et l'honneur de l'Allemagne? La gloire et l'honneur de la France? On verra en son temps. On va continuer avec les quelques premiers versets du chapitre 22. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son ombre sera sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Un complément de description. Le fleuve d'eau de la vie. Vous vous souvenez de Jésus qui parlait à la femme samaritaine dans Jean 4. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Jean 4, 13 et 14. Jésus avait déclaré le dernier jour de la fête du tabernacle, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Cette notion d'être complètement désaltéré, David en parlait, « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Chaque homme a en fond de lui, au plus profond de lui, cette soif de Dieu. Cette soif d'absolu, cette soif d'accomplissement, de création. Et on cherche tous à assouvir cette soif. Et souvent, la plupart des gens se trompent en cherchant à assouvir leur soif par des recherches charnelles, par la richesse, par les plaisirs, par la puissance politique, la puissance physique. Et si on essaye d'assouvir cette soif par ces méthodes, la soif va demeurer, on ne va pas étancher sa soif. Il n'y a rien de plus apaisant, plus beau à voir qu'une belle rivière qui coule dans un cadre naturel. Je suis toujours... J'aspire, des fois je me dis, ce serait tellement beau s'il y avait une vraie rivière plutôt que le paillon. Une rivière qui coule dans la ville, et comme dans certaines villes, il y a une vraie rivière, un vrai fleuve. Il y a un très joli passage, psaume 46,5, qui dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. » Ésaïe nous dit que cette rivière limpide comme du cristal, c'est le flot continuel du Dieu, l'Esprit-Saint. Donc il y a le trône de Dieu et de l'agneau et il y a cette eau de vie qui symbolise l'Esprit Saint. Et là il y a une description qui est un peu dure pour les architectes paysagistes. Verset 2, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie. Donc il y a un arbre qui semble avoir des racines des deux côtés de la rivière de la vie. Il produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Alors là aussi, il y a pas mal de... Ça pose pas mal d'interrogations. Est-ce qu'on va manger au paradis? Est-ce qu'on va manger dans la Jérusalem céleste? On sait que Jésus, après avoir été ressuscité, prenait manger. Il y a le festin des noces de l'agneau, donc il y a un repas. Et là, on voit qu'il va y avoir des fruits. Et si vous imaginez des bonnes nectarines de Corse ou des fruits qui seront produits avec cette eau de vie. Et puis, il y a cet aspect des feuilles de l'arbre. On fait des infusions. Apparemment, ça sert à la guérison des nations. Comme s'il y avait encore besoin non seulement d'avoir sauvé les hommes, mais de sauver la France, de sauver l'Allemagne et les nations. Ça, c'est pas clair comme de l'eau de roche, c'est le cas de dire, mais vous pouvez lire différents commentaires. Pour une fois, on ne va pas s'ennuyer au paradis. On pense des fois qu'on va être assis. L'imagerie populaire, c'est Saint-Pierre qui nous a laissé entrer à la porte. Et puis après, on est assis, on nous donne la guitare réglementaire ou la petite harpe réglementaire et la robe blanche. Et puis on va s'asseoir sur le bord d'un nuage ouaté et on fait de la musique. Mais là, il est dit, ses serviteurs le serviront. On va bosser. Donc c'est pour ça que c'est bien de bosser ici-bas, de servir. C'est un bon entraînement. On verra sa face et on sera identifié. Son nom sera sur leur front. Cette arbre de la vie, c'est intéressant parce que bien sûr, on le trouve dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc Dieu avait dit, le jour où tu en toucheras, où tu le toucheras, tu en mourras. Et bien sûr, le Satan avait menti à la femme, et aussi à l'homme, par la même occasion, en disant que c'est pas vrai du tout, Dieu te ment, ce qu'il veut faire, c'est de t'empêcher d'avoir accès à sa puissance. Et la femme et l'homme étaient tombés dans le panneau. Et Dieu avait mis des anges, des chérubins, pour les empêcher d'aller vers l'arbre de vie. Et l'explication qui paraît la plus logique, c'est que si on touche à cet arbre de vie, on va vivre pour toujours, on va toujours être dans le même état. Et donc Dieu voulait surtout pas que l'homme, pécheur, parce qu'il avait désobéi au premier commandement, maintenant puisse vivre de façon éternelle dans cette situation de péché. Et ça, je crois que c'est la seule explication plausible et valable pour expliquer pourquoi les chérubins empêchaient l'accès à l'arbre de vie. Et là, cet arbre de vie, maintenant, il est là et l'eau du Saint-Esprit, l'eau de vie, coule. Ces fleuves d'eau vive dont Jésus parlait dans Jean 7 sont là, et maintenant l'homme peut toucher parce qu'il est dans cet état de pureté, de félicité parfaite. C'est plus un problème s'il reste à vivre éternellement dans cette situation. Le verset 3 dit, il n'y aura plus d'anathème. Un autre mot, ce serait le mot de malédiction. Dans la Genèse, on avait vu que c'était le début du mal, du péché. Ici, c'est la fin du mal. On verra la face de Dieu. Matthieu 5, 8, Jésus disait dans les Béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous aurons cet état de pureté complète et nous pourrons donc contempler Dieu sans être zappés, détruits instantanément. Et on portera son nom et on vivra dans une journée parfaite. Une fois encore, on s'arrêtera avec ce verset. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit t'arriver bientôt. Et là, on va juste voir 7 et 8 et 9. On va tout finir. L'ange le reprend et lui dit, c'est pas moi qu'il faut adorer, parce que devant ces descriptions merveilleuses, Jean se prosterne devant l'ange et il le reprend. Il dit, mais ça va pas, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Et la parole nous dit, adorez Dieu, n'adorez personne d'autre, n'adorez aucune autre personne ou chose, aucune idole, adorer Dieu. Encore une fois, il est question des serviteurs On ne va pas rester à ne rien faire. On va avoir une parfaite administration avec le trône de Dieu et l'agneau de Dieu. On va être parfaitement subordonné, les serviteurs qui le servent. On sera transformé parfaitement en voyant son visage. On aura son nom sur nos fronts. Ce sera une parfaite identification. Et on régnera pour toujours une parfaite exaltation, exultation aussi. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. On peut vraiment se réjouir de cet avant, de cette première, de cette... Comment on dit ça sur halluciné, c'est voir la vidéo à la demande ou c'est un petit
bande-annonce
de ce que va être l'éternité décrite par l'Apocalypse. Donc on voit que l'Apocalypse, souvent on considère, nous on s'arrête à la partie apocalyptique dans le sens de cataclysmique, de colère de Dieu terrible. Pour le croyant, ce livre est un livre plein d'encouragement. Il nous montre la vraie perspective sur le plan de Dieu qui s'accomplit, qui fait qu'il peut effacer le péché de l'homme par le sacrifice de Jésus, et on est appelé à vivre pour toujours avec lui. On a ce sentiment d'éternité qui trouve sa complète satisfaction. Et encore une fois, les mots qu'on peut prononcer, je crois, sont loin de correspondre à la réalité de ce qu'on verra, de ce qu'on expérimentera. Encore une fois, les plus belles choses auxquelles vous pouvez penser sur Terre, vous avez peut-être voyagé dans des pays lointains, vous avez peut-être vu des très belles choses, des couchers de soleil, des levées de soleil, des vagues de 75 pieds de haut. Tout ça, c'est rien à côté de ce que Dieu nous promet. Et c'est pour ça qu'il dit « Heureux ceux qui lisent la prophétie, heureux ceux qui comprennent ce qui se passe. » Voilà, je crois que la semaine prochaine, Tonio pourra terminer et faire un...
On va voir, parce qu'on a changé de programme ce soir. Je ne sais pas encore.
Ah! Voilà.
Je t'appelle tout à l'heure à 18h, je te demande si tu vas faire 22, tu me dis non.
Et puis après, je pense que pour t'aider, je vais faire 22.
Mais ça.
C'est pas grave. C'est un problème de communication interne.
Est-ce que tu peux juste répéter
Parfaite joie, exulter, c'est sortir de soi-même, c'est d'être complètement... C'est une... Est-ce que vous avez d'autres commentaires, questions? Rendez-vous là-haut. Jonathan, tu veux terminer par une autre prière?
Merci Seigneur pour l'étude que Pierre nous a fait ce soir. Et je prie que ça pouvait nous toucher et nous aider pour ce qu'on a fait.
Amen, merci. Je m'attends.